merci à tous les cinq de nous avoir rejoints sur cette question. On en a parlé hein, en France, et Antoine Darode le rappelait, la promesse du plan France Très Haut Débit, c'est l'accès effectivement à l'Internet très haut débit, quelle qu'en soit la forme. Ça s'appelle le mix technologique, dans lequel on trouve de THD hertzien, la 4G fixe, la 5G demain, le satellite. Et c'est de ça qu'on va parler effectivement ensemble. Et première question, effectivement, Antoine Darode, est-ce que le mix technologique constitue une solution seulement de transition? Parce qu'on l'a dit, et vous l'avez dit, l'après, finalement, l'horizon, c'est la fibre pour tous. C'est juste une transition, ou bien est-ce qu'il a vocation, y compris, enfin, notamment dans les territoires ruraux, à s'installer dans le temps? Et puis, deuxième question, avons-nous des nouvelles de la 5G?
Alors, sur la première question, c'est assurément et nécessairement une solution dont on a besoin aujourd'hui et pour les 10 prochaines années, cette solution complémentaire, c'est certain. Et probablement d'ailleurs que ça a été une des faiblesses dans la mise en œuvre du plan France Très Haut Débit, c'est qu'on avait espéré une plus grande appétence, une plus grande adhésion aux technologies dites alternatives, aux technologies non filaires. Alors, il y a probablement différentes raisons hein, qui ont justifié, qui peuvent expliquer cette moindre appétence des clients. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce que, notamment, l'écosystème de distribution des opérateurs soit beaucoup plus mobilisé, comme ça peut se faire dans d'autres pays. Et ça a finalement assez peu pris, en tout cas peu par rapport à nos ambitions qui étaient beaucoup plus importantes. Alors, oui, on a encore bien évidemment besoin de toutes ces technologies alternatives, le temps de déployer la 5G, mais on en aura besoin plus structurellement, parce que d'abord le 100% FTTH, y compris pour les habitats les plus isolés qui ne sont pas des habitats où on a un besoin de débit sécurisé très élevé, et encore, parce que ces technologies peuvent les permettre, on aura durablement des technologies non filaires. Et puis, dans l'optique de la résilience, il faut aussi imaginer que toutes ces technologies sont des solutions qui complètent, pour la résilience, les solutions filaires en fibre. Donc, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a besoin pour les prochaines années, le temps de déployer la fibre partout. Et il y a des points d'interrogation, mais il y a certainement une place, notamment de complémentarité, de résilience réciproque, de backup réciproque, qui pourrait être mobilisable. Et puis, sur la question de la 5G plus particulièrement, là encore une fois, on est au balbutiement des déploiements et de la technologie. À la Banque des Territoires, on est convaincu que ça ne va pas se limiter uniquement aux usages industriels, on investit dedans, mais on est convaincu que ça peut être également des solutions de couverture localisée, par exemple sur un campus universitaire, sur un campus hospitalier, ou même dans une zone d'activité donnée. Et donc, on va investir pour essayer, tester ces différentes solutions, parce que on est convaincu que ces solutions, notamment de 5G, mais on va dire l'environnement en 5G, parce que c'est, peuvent apporter des solutions de couverture localisées complémentaires à la fibre dans tous les territoires.
Merci Antoine Darode. Marc Leblanc, directeur commercial Europe du Sud, Solutions Télécom de Prysmian et président d'Objectif Fibre. On l'a entendu, l'horizon finalement souhaitable, c'est le tout fibre, même si ce n'était pas la promesse initiale du plan France Très Haut Débit. Ça a l'air d'être perçu comme ça, comme étant la technologie reine et évolutive de surcroît. Ok, on a vu que ce n'était pas forcément tout de suite, ce n'était pas forcément possible partout, mais pour que la promesse soit tenue, il y a un certain nombre de règles de l'art à respecter, que ce soit sur le plan de la qualité des matériaux comme de la qualité de la pose. Est-ce qu'on peut faire le point avec vous sur les bonnes pratiques en matière justement de fibres? On l'a entendu, hein, des réseaux résilients, des réseaux qui tiennent, c'est des réseaux bien posés.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci Sébastien pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Aurillac, surtout pour quelqu'un qui habite dans la région un peu plus à l'est. Quelques mots d'abord de Prysmian, si tu le permets, hein, pour resituer un peu la société que je représente ici. Donc Prysmian, nous sommes le premier fabricant de câbles au niveau mondial. Nous intervenons à la fois sur les réseaux d'énergie et de télécom. En quelques chiffres, précisément, c'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 30 000 personnes, dont 3 000 en France. Donc la France est un pays très important pour notre groupe. C'est une présence dans 50 pays, 100 usines, dont 10 en France. Donc vous voyez, 10% des effectifs, 10% des usines. Et sur les usines que nous opérons en France, nous en avons 4 qui sont dédiées aux télécoms. C'est dire le poids que représentent aussi les télécoms en France sur Prismian. Une usine qui fait exclusivement de la fibre. Et nous sommes le premier fabricant de fibre en Europe, de très loin. Et 3 usines qui font des câbles, depuis les gros câbles jusqu'aux câbles d'abonnés que vous avez ou que vous aurez tous un jour chez vous. Alors, sur le sujet de la... Notre vision à nous, Prismian, qu'est-ce que c'est? Donc, nous sommes un acteur, nous sommes évidemment un acteur très important en France. Nous avons été un acteur central pour le déploiement du plan France Très Haut Débit. Nous intervenons aussi dans d'autres pays. Donc, il est clair pour nous que notre vision, c'est que la fibre optique, de toute façon, va être effectivement, comme tu l'as dit, Sébastien, le média principal pour apporter le très haut débit pour tous, avec une phase de mix technologique. Hein, ça, je pense que personne le conteste. Alors, est-ce qu'on va arriver au 90, 95, 98, 99% fibre? Je suis bien incapable de le dire. Je pense que personne aujourd'hui dans la salle est capable de le dire. Ce qui est sûr, c'est que nous, Prismian, nous voyons au-delà de la France des programmes similaires à ce qui s'est fait en France sur le déploiement massif de la fibre. Et donc, évidemment, ça renforce, nous, notre stratégie d'investir massivement dans nos moyens de production pour aller déployer la fibre partout. Et l'exemple français est très intéressant parce que ça nous a beaucoup appris, pour revenir sur ton deuxième point, sur les technologies à utiliser, sur les règles de l'art à déployer, sur ce à quoi il faut faire excessivement attention pour ne pas décevoir l'abonné au final, puisque le succès du plan France Très Haut Débit, à la fin, il va se mesurer au nombre d'abonnés réels sur les réseaux. Je pense que personne ne contestera ce point. Sur ce sujet des bonnes pratiques, comme tu l'as dit, en dehors de mes activités chez Prismian, je suis aussi président de la plateforme Objectif Fibre, qui a été créée il y a maintenant 13 ans, avec l'objectif de fédérer la filière pour faire en sorte que les réseaux se déploient de façon homogène, de façon qualitative, pour en réduire évidemment les coûts d'exploitation. Donc, nous avons plusieurs axes de travail sur ces sujets. Le premier, effectivement, c'est de recenser et diffuser les règles de l'art. Donc, ça, c'est fondamental. Par règles de l'art, qu'est-ce qu'on entend? C'est quels sont les produits, quels sont les composants à utiliser, donc quelles sont les normes à respecter. Et ensuite, deuxième point très important, c'est comment on met en œuvre ces produits, donc comment on les déploie concrètement sur le terrain. Le deuxième sujet qui est très important, et c'est un sujet qui a déjà été abordé, c'est qu'une fois que vous connaissez ou que vous pensez connaître les règles de l'art, il faut ensuite faire en sorte qu'elles soient mises en œuvre par des équipes qui sont formées. Ça, c'est un sujet, la formation, dont on parle depuis des années. Nous, en tant qu'Objectif Fibre, on aide les centres de formation à développer des plateaux techniques et des offres de formation qui sont adaptées à ce que réclame le marché, soit des offres longues, soit des offres courtes. Et il est clair qu'aujourd'hui, ce sujet de la formation, il est fondamental. Je sais qu'Infranum, la FFT, le CSF, Infranumérique travaillent énormément sur ce sujet justement pour faire en sorte que la dernière étape, celle du raccordement, se fasse dans les meilleures conditions, toujours avec l'objectif ultime qui est que quand vous débarquez chez un abonné, si le raccordement se fait correctement, l'abonné considère que c'est normal. En revanche, si le raccordement se fait dans de mauvaises conditions, en dépit du bon sens, il y a un potentiel problème de mauvaise image des déploiements optiques. Et ça peut être problématique quand on voudra transformer des prises raccordables en prises raccordées. Donc, Objectif Fibre est à la disposition de la filière. On a développé énormément d'outils. Tous ces outils sont en libre accès, sont en libre service sur la plateforme. Et on restera de toute façon à la disposition de la filière pour travailler sur ces sujets, que ce soit diffuser les règles de l'art, aider les organismes de formation à se structurer, développer des offres de formation qui sont adaptées aux opérateurs et aux installateurs. L'idée étant pas de faire que des formations longues ou que des formations courtes, mais de trouver un bon équilibre.
Merci Marc Leblanc. Et peut-être un message aux élus en particulier, une envie de dire choisissez la fibre française. C'est pas...
Je te remercie de faire la publicité de la filière. Oui, heureusement que tu es là, Sébastien, parce que sinon j'oublie des choses, c'est incroyable. Oui, je voulais quand même insister sur un point qui est très fort. Si le plan France Très Haut Débit a pu se déployer dans un délai record, je ne vais pas revenir sur le temps nécessaire, et si on compare les déploiements des réseaux optiques, cuivre, énergie, autoroutier, ferroviaire, etc., etc. Mais une des grandes forces de la France, c'est que historiquement, on a toujours une filière extrêmement puissante, avec des opérateurs télécoms forts, avec une industrie très forte. La France est aujourd'hui le premier fabricant européen de câbles et de fibres optiques. D'accord, c'est En Europe, il y a un pays qui est leader, c'est la France. C'est vous, c'est nous. Donc, on a un parc industriel qui est extrêmement fort en France. Ça va nous aider à aller à l'export. Je sais que c'est un sujet qui est cher à Philippe et à Infranum. Et je peux vous dire que Prismion, nous, aujourd'hui, on exporte environ 30% de notre production en dehors de la France. Parce qu'effectivement, on réfléchit à l'après-plan France Très Haut Débit. On va évidemment continuer à être en France, puisque comme ça a été dit, le plan France Très Haut Débit n'est pas tout à fait terminé. Hein, il reste un petit 10 millions de prises de raccordables à faire et puis à peu près 20 millions de raccordés à faire. Donc, faut pas anticiper le fait qu'on a terminé. Mais oui, on a une filière très forte en France. Il faut s'en féliciter et il faut la pousser.
Merci, merci Marc. Richard Topper, en tant que président du Cercle Credo, aujourd'hui, vous proposez un certain nombre d'analyses et puis même de modes d'emploi, de guides à l'attention de ceux qui déploient la fibre, parce que c'est pas n'importe quoi cette matière. Aujourd'hui, comment vous analysez au Credo le déploiement de la fibre, les réussites, les échecs, les défis qui sont devant nous, dont on parle depuis tout à l'heure?
Merci Sébastien pour cette 17e édition. Je suis très heureux là, d'être là. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'a frappé là, dans tout ce que j'ai entendu, c'est une conjugaison d'espoir et de réalisme. Et c'est peut-être la première fois que j'entends ça, moi qui suis un vieux crabe des télécoms. Bah, ça fait plus de 50 ans que je suis là-dedans. Et donc, ce que je voudrais, c'est justement parler un peu de points sur le plan France Très Haut Débit, en profiter pour présenter les activités de l'association du Credo, qui réunit les experts fibre optique de plus d'une centaine de personnes. Et il y a beaucoup enfin, l'industrie, il y en a beaucoup dans la salle. Hein. Le dernier membre qui est rentré a parlé tout à l'heure, spécial, hein. Mais il y en a beaucoup d'autres membres. Hein. Je vais faire de pub, des grands, des petits, des individuels. Donc le premier point, je crois, c'est que oui, le plan France Très Haut Débit, c'est un très grand succès. C'est clair, c'est ce qu'on vient de dire. En fait, je reprends la succession, il a dit il reste 10 millions, c'est-à-dire que plus de 70% du territoire est couvert, mais il en reste 30, il reste encore 30% à faire. Hein. Et deuxièmement, il y a plus d'abonnés FTTH que d'ADSL, c'est un vrai succès. C'est un succès notamment pour les industriels. Hein. Donc là, si je prends ma casquette de fondateur de CETIX, qui est une société de conseil et d'ingénierie que j'ai créée il y a quelques années, aujourd'hui, nous exportons plus de 25% de nos activités hors de métropole. C'est pour une société comme la nôtre, c'est assez impressionnant. Et en fait, ça ne fait que grandir, hein, cette partie internationale. Et on cherche du monde. Hein, je fais une pub. Hein. Donc, en fait, les industriels ont développé un savoir-faire, hein, qui s'exporte avec succès dans les îles britanniques, en Allemagne. Hein, et ça, on le fait tous, on en a plusieurs dans la salle. Hein. On commence même à s'attaquer aux États-Unis. Hein. Donc, il y a clairement un grand succès pour les industriels. La question maintenant, c'est est-ce que c'est un grand succès pour les abonnés, les Français, les administrés? C'est ça la vraie question. Non? Et aujourd'hui, en fait, pour que ça soit un vrai succès, on a deux, à notre avis, deux grands défis à relever. Hein? Le premier, c'est d'achever la couverture. Hein? Là, on a fait la majorité, mais il en reste encore un bout. Et pour parler comme un ancien président de la République, on a mangé notre pain blanc, maintenant on va manger le pain noir. C'est-à-dire justement les zones rurales, les zones qui coûtent le plus cher à construire, qui sont les plus difficiles à faire, qui prennent le plus de temps. Alors, un plus par rapport au temps du téléphone, c'est que dans le temps du téléphone, on disait aussi que les abonnés à la campagne rapportaient moins que les abonnés à la ville. Aujourd'hui, c'est le contraire. Avec la fibre, les abonnés à la campagne, ils rapportent au moins autant que la ville. Donc, c'est un intérêt pour les économiques, pour les opérateurs, de les raccorder. Donc, le premier point, c'est de vraiment mettre en place toute l'infrastructure pour assurer la couverture. Le deuxième point, c'est qu'on s'est félicité d'avoir fait ça dans le record. On a mis 7 ans à câbler une grande partie de la France. Ça a survécu, ça a passé à 3 présidents, le plan France Très Haut Débit. C'est... Quand on regarde dans les autres pays, par exemple, quand on travaille en Grande-Bretagne, dans les îles britanniques sont exactement là où on était en France en 2017, vous voyez, ou entre 2015 et 2017. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de projets qui se lancent avec plein de nouveaux opérateurs. Et vous voyez, aujourd'hui en France, on a mûri. Vous avez entendu des opérateurs vous dire qu'ils ont racheté les actifs de Covage, qui lui-même avait racheté, vous vous souvenez, Tutor. Donc, en Grande-Bretagne, ils en sont à ce stade-là, où on était. Hein. Et donc, en fait, aujourd'hui, en France, ce qui se passe, c'est que c'est devenu une infrastructure essentielle. Là, on a parlé de services, on parle de plans, on va faire une table ronde la suivante sur les services. Là, pour qu'il y ait des services, il faut qu'il y ait une infrastructure qui marche, et qui marche à tout moment. pour qu'elle soit bien faite. Hein. Alors, bien sûr, il y a la question des raccordements. Moi, j'ai la coutume de dire que les raccordements, c'est bien, mais c'est la face visible de l'iceberg. En tant que professionnel, il y a un certain nombre d'autres sujets qu'on voit de temps en temps et qu'on va voir, qui vont impacter de plus en plus la qualité de service, parce que de plus en plus, on va s'en servir. C'est d'abord ce qu'on appelle les nœuds. Hein, donc, les nœuds des réseaux, c'est les points de branchement, c'est les points de mutualisation, les points de branchement qui sont plus ou moins bien placés, par exemple sur les poteaux, à hauteur d'homme. Je vous rassure, j'étais à Venise il y a 3 jours, j'ai vu des points de branchement qui étaient plus ou moins bien placés. Là, on raccorde en façade en Italie. Hein. Et puis, il y a les points de mutualisation qui sont plus ou moins bien placés, les armoires. Et si ça n'a pas été vu avec soin, ben, de temps en temps, il y a une voiture qui abîme l'armoire, un véhicule. Et donc, il faut tout recommencer. Mais il faut peut-être tout recommencer parce qu'en fait, dès le départ, on ne l'a pas mis au bon endroit. Et puis, il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Hein. Moi, par exemple, on a les meilleurs boîtiers de protection des fissures, c'est-à-dire les boîtes que vous pouvez voir où il y a des câbles, mais il faudrait qu'elles soient étanches. Si elles ne sont pas bien posées, si elles ne sont pas étanches, dans 5 ou 10 ans, ben, il va falloir tout refaire. Parce que la fibre, elle aime l'eau, mais dans des limites vraiment très limitées. Et donc, l'eau, ça se dégrade. Or, vous avez tous fait les réseaux, on les dit, on les construit pour 30, pour 50 ans. Et pour ça, il faut qu'il y ait la qualité. Hein. Et donc, c'est, voilà pourquoi, pendant les temps, 33 minutes, là, voilà, pour justement parler du credo. J'avais prévu, je ne sais pas s'il y a des diapos ou non derrière, on verra bien. Mais justement, la question, c'est que toutes ces questions-là, il faut les définir, il faut les planifier, il faut les financer. Là, on a bien parlé du plan, on a parlé de la finance. Dans un cadre d'intérêt général, mais le premier point, et c'est là où on intervient en tant que credo, c'est qu'il faut les définir. Et pour les définir, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est d'en parler, et d'en parler avec les spécialistes. Et donc, le credo se veut l'engrade où tous les experts, ou toutes les parties prenantes peuvent échanger sur ces questions techniques, en dehors des aspects commerciaux, et d'au moins chiffrer, de quantifier, ça a été dit par d'autres intervenants, les différentes actions. Alors, tu as rappelé les publications du credo. Les dernières qui sortent aujourd'hui, des fiches, qui vont, donc la plupart sont sorties. Il y en a qui sortent encore en ce moment sur l'exploitation maintenance, hein, et qui vont être assemblées dans un guide. Vous pouvez trouver tout ça sur le site du credo. Je ne sais pas si ça s'affiche derrière. Hein. C'est www.cerclecredo. Ah, ben ça s'affiche. Extraordinaire. Bravo. Ah oui, bravo. Oui, et puis vous pouvez mettre la suivante, hein, si vous voulez. Voilà. Hein. Hein, donc, l'exploitation maintenance, les recettes, contrôle, la qualification des entreprises. Hein. Le credo a aussi une association fil qui s'appelle l'EINA, qui certifie les entreprises habilitées à travailler sur l'infrastructure aérienne. Et tous les mois, il y en a de plus en plus qui, non pas tellement à cause d'Orange, je ne sais pas si Orange est dans la salle, surtout à cause d'Enedis. Hein. Alors, le credo, ce sont des ateliers mensuels. Tous les mois, il y a un atelier qui réunit entre 80 et 120 personnes, hein, grâce justement aux web conférences, grâce à Internet. Ce sont aussi les jeudis de la fibre. Le dernier a réuni 300-400 participants sur la fermeture du cuivre. Et on a l'intention de continuer, puisque le vrai sujet pour la fibre optique aussi, c'est que le cuivre ne va plus exister. Un de ces jours, Orange va dire que ça coûte trop cher, je ferme. Et donc, il va falloir que la fibre réponde. Et il y aura des pressions, il y aura peut-être de l'argent pour les industriels, mais ça ne changera rien. Il faudra que ça marche, il faudra aussi qu'il y ait des compétences. L'information, c'est aussi un sujet très important. Hein. Et le dernier point, mais je ne sais pas si on a... Bon, et le credo, donc, c'est une équipe. Donc là, avec les vacances, il n'y en a pas beaucoup à Ruralitic. Et il y a aussi un casque de réalité virtuelle. Pour les plus anciens, il y avait un bus. On en a parlé tout à l'heure, on avait demandé, ah, le credo, c'est un bus. Aujourd'hui, c'est un casque de réalité virtuelle que vous pouvez chausser. L'année dernière, beaucoup de visiteurs l'ont mis sur la tête et ont pu se promener dans un réseau, monter en haut d'un poteau, descendre dans une chambre. Hein, et on est en train de sortir la nouvelle version, enfin une version complémentaire avec des usages et des services.
Hein. Merci.
Donc, merci pour faire avancer la fibre.
Absolument. Si vous voulez vous faire une culture, il ne s'agit pas de devenir un expert, mais vous faire une culture et comprendre les enjeux aujourd'hui du déploiement des réseaux fibres, effectivement, vous tirerez profit de la fréquentation du credo. Merci beaucoup, Richard Topper. Audrey Briand, vous êtes responsable des affaires publiques de Telsat, donc Telsat, le satellite à nouveau 100% français. On a des belles boîtes en France, on peut le dire. L'idée, c'est de faire le point effectivement sur cette solution d'accès à l'Internet très haut débit qui existe depuis une quinzaine d'années, qui se renouvelle chaque année. Je crois qu'il y a encore un satellite qui va partir de Kourou au mois de septembre. Vous nous en direz plus. Et puis, des interrogations qui reviennent sur cette question des constellations. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point global sur l'Internet satellitaire, les constellations et les prochaines aventures de Telsat.
Merci beaucoup et merci encore une fois pour l'invitation et à ce beau département du Cantal dans lequel on est très heureux de venir chaque année. Ça, on ne le dit pas, mais en fait, on se bat pour venir. Alors, pas mal de questions sur effectivement l'actualité du satellite. Alors, tu l'as dit un peu en teasing, mais je vais effectivement le préciser un petit peu. On est dans une nouvelle génération de satellites géostationnaires. Là, je parle des satellites que nous avons l'habitude de lancer, nous, chez Eutelsat, qui se situe à 36 000 km de la Terre et qui couvre de manière fixe une zone bien définie. Donc, nous avions un satellite en 2010 qui avait été lancé, qui s'appelait Kahasat. Il y a un an et demi, on a lancé un nouveau satellite qui s'appelle Connect, qui est d'ores et déjà opérationnel sur l'Europe de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne, qui donc permet d'avoir du très haut débit partout sur le territoire français. Mais je n'en dirai pas plus, puisque Nornet s'exprimera juste après moi et pourra vous expliquer plus précisément quelles sont les offres. Le satellite dont Sébastien parlait à l'instant, c'est un satellite de cette même génération, donc c'est cette nouvelle génération de satellites géostationnaires, qui est prévu donc pour là les prochains jours. Il est arrivé par bateau, c'est assez notable pour être souligné, depuis Cannes jusqu'à Kourou, et il sera lancé donc le 6 septembre prochain à 23h si tout va bien et si la météo le permet. Donc je vous invite d'ailleurs, si vous aimez le spatial et même sans ça, pour découvrir ce que c'est qu'un lancement, à vous connecter sur le site d'Ariane Espace, le lien sera direct, et sinon vous connectez sur le site de Telsat. On vous fera bien sûr une page dédiée aussi pour qu'on puisse suivre ce lancement. Alors, il sera historique à deux titres au moins, ce satellite Connect VHTS. Ça n'est pas le double du Connect que nous avons lancé il y a 2 ans. Ce satellite, c'est tout simplement le plus gros satellite construit au monde de télécommunications, bien entendu. 500 gigabits seconde, il fait 6 tonnes et demie, ce qui est considérable pour un satellite. En fait, il a une hauteur équivalente à 3 étages d'immeuble, pour vous donner un petit peu. Ça, c'est sans les panneaux solaires, bien évidemment. Donc, c'est le plus gros satellite jamais construit. Il est made in France, tu le soulignais tout à l'heure. Il a été construit tout d'abord à Toulouse, puis dans les usines de Cannes de Thales Alenia Space. Il sera lancé par une Ariane 5, et c'est en cela qu'il est aussi historique, c'est un lancement historique, puisque ce sera le dernier lancement d'une Ariane 5. Comme vous le savez, l'Ariane 6 prendra le relais dans quelques mois. Voilà, beaucoup de choses à fêter ce 6 septembre, et donc bien évidemment, de fait de sa capacité, qui est 6 fois plus importante que le Connect, il sera aussi 6 fois plus capacitaire. Il permettra de délivrer toujours plus de services, mais surtout à beaucoup plus de monde, et il aura une couverture essentiellement européenne, Europe élargie, puisqu'il ira jusqu'au nord de la côte du Maghreb, et bien entendu il couvrira parfaitement la France, donc 100% du territoire français métropolitain sera couvert par ce tout nouveau satellite. Alors même s'il est lancé le 6 septembre, il faut avoir en tête que il deviendra opérationnel 6 mois, voire un peu plus, après son lancement, pour qu'il atteigne son orbite finale. Mais dès lors qu'il l'aura atteint, effectivement, il n'y a plus qu'à allumer la lumière et tout le monde reçoit le signal. Tu me posais la question donc des constellations. Alors, vaste sujet, on pourrait, je pense, en débattre 3 jours, véritablement. Je vais essayer de faire assez court sur le sujet, mais c'est vrai que l'actualité récente nous donne quand même beaucoup l'occasion d'en parler. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas parler d'une constellation satellitaire dans le monde. Alors, de quoi on parle concrètement quand on parle, peut-être simplement revenir un peu à la définition d'une constellation. Qu'est-ce que c'est une constellation par rapport à ces satellites dont je viens de parler, qui sont envoyés, il n'y en a qu'un, il est énorme, et il permet d'avoir Internet tout de suite. Alors, pourquoi en envoyer des dizaines, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers chez certains opérateurs? Alors, tout simplement, donc une constellation, c'est, comme je le disais, beaucoup plus de satellites en général, qui sont situés beaucoup plus proches de la Terre, évidemment, qu'un satellite géostationnaire. On dit que l'orbite LEO, donc LEO, c'est simplement pour Low Earth Orbit, hein, c'est simplement pour dire l'orbite basse, c'est entre 500 km et 2000 km. Donc ça, c'est l'orbite basse. Et ce sont des satellites qui ne font pas 6 tonnes. Ceux-là, ils sont beaucoup plus petits. En général, pour les constellations actuelles, ils font entre une centaine de kilos et 300 kilos. Donc, ce n'est pas non plus des tout petits satellites. Et ils permettent effectivement, une fois que la constellation est complète, mais uniquement lorsque la constellation est complète, de proposer et d'apporter du très haut débit, de la connectivité de manière générale sur l'ensemble de la planète. Du coup, c'est global. Alors, évidemment, l'avantage de ces constellations, c'est de pouvoir proposer des connexions avec des latences plus faibles que les satellites géostationnaires. Hein, c'est physique, sont plus proches de la Terre, donc la latence est forcément plus faible. Et c'est vrai que cet atout peut s'avérer nécessaire dans certains marchés spécifiques, des marchés B2B, des marchés institutionnels, avec des besoins critiques, je pense notamment aux besoins militaires, où là, effectivement, avoir une faible latence peut être tout à fait intéressant. Donc, c'est pour cette raison, notamment, que chez Telsat, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité ces derniers mois pour notre entreprise, nous avons assez tôt, hein, dès le début de l'année 2021, pris le pari de cette orbite basse en investissant dans une constellation satellitaire qui était déjà en déploiement, qui s'appelle OneWeb, donc qui est une constellation de 650 satellites. Et nous avons annoncé, donc peut-être pour ceux qui ont suivi tout à la fin du mois de juillet, pendant les vacances de beaucoup, que nous allions amorcer un rapprochement donc, avec cette entreprise pour les prochains mois. Alors, ce que je voulais dire par rapport à effectivement ce Géo, ce Léo, bon, et aussi une orbite Méo, il y a beaucoup d'actualités dans le satellite. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas s'y tromper. C'est-à-dire que ces constellations, oui, elles ont une latence plus faible, mais elles ont aussi un prix au mégabit qui est diamétralement plus important que la technologie géostationnaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la fracture numérique que l'on connaît, qui a un objectif qui est quand même clair, qui est celui d'apporter le très haut débit au même prix à tous les citoyens. C'est au même prix, ça veut dire au même prix qu'un abonnement FTTH, ou au même prix qu'un abonnement ADSL. Cette solution, alors pas la solution Léo, mais donc la solution géostationnaire, c'est-à-dire celle dont on parlait au tout début, c'est-à-dire celle du Connect et du Connect VHTS, elle est clairement de loin la plus efficace, la plus économique, et puis par ailleurs, elle est aussi éprouvée, elle est robuste, on ne le découvre pas. Donc c'est simplement ce que je souhaitais préciser, parce qu'on peut avoir besoin de tout type de constellations, de services, etc. Mais il faut à un moment donné effectivement savoir à qui on s'adresse et pour quel besoin on a besoin de ces critères.
Et à quoi ça sert exactement.
Voilà, et alors, je ne sais pas s'il me reste une minute. je voulais simplement... donc. Ça, c'est la stratégie de Telsat, donc d'être sur cette combinaison Géo-Léo qui, pour nous, est la meilleure option, à mon avis, pour répondre aux besoins de nos clients, au meilleur prix, je le redis, parce que nous sommes dans une logique d'être le meilleur allié des technologies terrestres. Et là-dessus, ça peut nous différencier de certains acteurs, mais on est toujours dans cette complémentarité qui, pour nous, est le cœur de ce que doivent être les technologies satellitaires. Et donc, je rebondis par rapport à ce que disait Antoine Darod et puis aussi Philippe Legrand tout à l'heure sur ce grand projet de résilience des réseaux. Je pense que la technologie satellitaire sur ces projets-là a un rôle, à mon avis, très important à jouer en backup, évidemment, le jour où tous les événements qu'on connaît et qu'on a pu constater cet été ne le rappellent qu'encore plus fortement. Et voilà, il faut savoir que nous serons, nous, Telsat, mais je dirais la filière spatiale dans son ensemble, pleinement mobilisés pour apporter notre pierre à l'édifice de ce grand projet de résilience des réseaux. Et 30 secondes, sur le sujet qui a beaucoup, sur lequel beaucoup aussi ont parlé depuis le début de l'après-midi, qui est le sujet environnemental, de durabilité. On parlait des constellations tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas parler constellations sans penser quand même environnement, ou sans en tout cas l'opposer. C'est une façon dont on peut voir les choses. Et pour nous, chez Telsat, c'est un sujet qui est aussi très, très important, sur lequel on est de toute façon investi depuis de nombreuses années. Et le rapprochement entre Telsat et OneWeb, c'est aussi dans cette idée de créer des synergies, d'optimiser les lancements, de réduire au minimum les débris dans l'espace, parce qu'évidemment, l'espace appartient à tous, hein, donc c'est un bien commun qu'il faut préserver. Et quand on fait, et quand on a des satellites qui coûtent le prix qu'on peut imaginer, il faut aussi que cet espace soit désencombré et accessible à tous. Donc on est pleinement investi sur ces sujets. Je dirais même que la France est pleinement investie sur ces sujets puisqu'elle a la loi la plus stricte sur ces sujets-là, avec la loi sur les opérations spatiales qui est en train d'être révisée. Donc oui, toujours plus de connectivité, mais pas au détriment de l'environnement.
Merci. Y compris de l'environnement lointain, halte à la pollution spatiale. Merci beaucoup Audrey Briand. Avant de revenir sur la question satellitaire, mais pas que avec Christophe Outhier, on souhaite entendre Patrick Guillaume, directeur régional nord-est de TDF, qui va nous faire d'abord un point sur le déploiement des RIP TDF, mais aussi sur l'implication de TDF dans le déploiement du New Deal, parce que TDF est un opérateur multitechnologie. Alors, je vais vous demander, question assez libre, votre vision là, à très court terme de la mise en connectivité de ces territoires ruraux. Voilà. Alors,
avant de parler de la fibre et du New Deal, je voudrais préciser un petit peu le contexte de la situation de TDF. En fait, TDF, on est sur une position unique car on est présent sur trois techniques de couverture, hein, que ce soit la diffusion hertzienne audiovisuelle, la TNT ou la radio, la couverture fixe via la fibre et puis la couverture mobile via la 4G et la 5G. Donc je vais revenir sur ces trois points-là. Juste en audiovisuel, historiquement, c'était sur ces services exploités pour le compte d'éditeurs, enfin de multiplex maintenant, puisqu'on parle de télévision numérique et de radio numérique. Ensuite, sur les FTTH, alors on n'a pas la prétention de faire comme les autres opérateurs de la précédente table ronde, on n'a déjà que 5 territoires, c'est 750 000 prises, donc c'est pas les millions, voire plus, qu'on a entendu. Et sur le mobile, en fait, on est essentiellement un rôle de tower co, c'est-à-dire qu'on construit des pylônes en milieu rural ou en milieu urbain, et après, on accueille les différents opérateurs de télécommunications. Donc ce triple positionnement, ça donne à TDF quand même une bonne compréhension des techniques pour parler pour revenir au sujet de cette table ronde, le mixte. Donc concernant l'hertzien, c'est indéniablement encore et pour longtemps la solution efficace pour la télévision linéaire, je précise bien linéaire, hein. Je ne parle pas de YouTube et compagnie ou des autres opérateurs de programmes télé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au niveau national, on a encore à peu près 50% des Français qui reçoivent la télévision en hertzien, et que pour 20% des foyers, c'est la seule façon de recevoir la télé. Il faut avoir ça en tête. Tout à l'heure, on parlait du raccordement de certains foyers qui vont être complexes. Ça représente à peu près 5%. Nous, on a évalué ça à 5%, soit 2 millions d'habitants. Enfin, de personnes qui pourront pas être raccordées comme ça tout de suite ou très très rapidement. Enfin, sur la télévision, enfin sur la partie hertzien terrestre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on émet sur des fréquences et que l'année prochaine il y aura la Confédération mondiale des radiocommunications à Genève, et que là, normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est à peu près sûr, il y aura toujours une bande de fréquences réservée à la diffusion de la télévision hertzienne. Ce qu'il faut, par rapport à la fibre ou notamment plutôt à la partie télécommunication, l'hertzien est une solution quand même du point de vue économe en énergie. puisque d'un seul point, on peut desservir un certain nombre de téléspectateurs. Voilà. Donc, on dit que c'est une solution d'attente, mais voilà, c'est aujourd'hui, on pense que le linéaire aura toujours de beaux jours devant nous, hein, notamment sur les événements sportifs, le temps réel, les sports et compagnie. Voilà. Alors sur la fibre, on peut quand même venir à la fibre. Donc, on a déployé 500 000 prises sur les 750 000 que l'on a. Et on a à peu près, sur ces 500 000, on a à peu près 210 000 abonnés. Donc, avec un taux de commercialisation de 40%, ce qui est pas mal puisqu'on a commencé en 2017. Et puis, sur certains départements, on a terminé. C'est le cas du Val d'Oise et des Yvelines. Même si c'est en banlieue parisienne, on constate que c'est des départements très ruraux.
80% des communes d'Île-de-France sont des communes rurales. Ouais, on l'oublie trop souvent.
Tout à fait. Donc, on a ces 1000, ça, voilà. Et bon, à noter que on investit comme tous les opérateurs de fibre de l'argent, et c'est de l'ordre de 220 millions d'euros avec la BPI aussi en soutien. Pour la partie New Deal, on est, comme je le disais, opérateur une TowerCo, hein, c'est-à-dire qu'on accueille les opérateurs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ne gère pas que nos parcs existants, hein, qui sont essentiellement notre parc existant, qui est essentiellement qui provient de la partie audiovisuelle. On construit régulièrement un certain nombre de pylônes, essentiellement pour le New Deal, mais pas que, aussi pour le long des autoroutes ou le long des voies ferrées. Par rapport là aussi à certaines TowerCo, on gère toutes les étapes. On gère toutes les étapes de bout en bout, c'est-à-dire depuis l'expression de besoin des clients jusqu'à la recherche de sites, les démarches administratives, bien évidemment, les interfaces collectivités, les constructions des pylônes. On a une usine de pylônes qui se trouve en banlieue de Toulouse. Le déploiement, la partie énergie, l'exploitation, voilà, et des éléments actifs. Voilà. Et ensuite, on essaie de créer de la valeur, bien évidemment, avec les opérateurs et les collectivités sur ces sites. Voilà.
Merci. Ce que j'avais à dire. Merci, Patrick Guillaume. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation d'un opérateur qui intègre en lui-même cette question du mix technologique, c'est-à-dire vous les faites presque tous avec le satellite que vous ne faites pas, mais ça, c'est Christophe qui s'en charge, puisque lui aussi, il fait beaucoup de choses, puisque Nordnet, qui a commencé par le satellite, Nordnet, filiale à 100% du groupe Orange, fait de la fibre, fait du THDR tien, et effectivement, son métier traditionnel, ancestral, si j'ose dire, le satellite. Christophe Outhier, c'est à vous.
Oui. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Oui, tu l'as dit, Nordnet, société du groupe Orange, fournisseur d'accès Internet depuis près de 30 ans. Bon, et très heureux de participer pour la 14e fois à Ruralitique. Voilà, ça c'était pour expliquer les cheveux blancs et les lunettes. Alors oui, où que vous soyez, Nordnet vous connecte au très haut débit. C'est un peu notre côté militant de l'équité numérique. Très clairement, simplement, on apporte le très haut débit autrement, sans fil et sans fibre. On le fait soit par satellite, on y reviendra, soit au travers des réseaux 4G et notamment la 4G fixe. Alors ce qu'on vous proposait avec Sébastien, c'est finalement d'abord de donner la parole à un utilisateur ou à une utilisatrice de cette connexion satellite Neosat lancée l'an dernier, l'internet par satellite très haut débit Neosat utilisé dans une exploitation agricole. Bezec Cap Sizun dans le Finistère Sud, et je pense que si la régie est prête, on peut peut-être lancer ces quelques images qui vont nous faire voyager, même si l'Auvergne est très jolie, la Bretagne c'est sympa aussi. Merci Nicolas.
Nous sommes une exploitation agricole située à Bezec Cap Sizun dans la pointe sud du Finistère. Nous avons du lait, un atelier porc et un atelier méthanisation. Nous sommes situés dans une zone un peu reculée et en débit, nous avons 0,8 mégas d'Internet. via NeoSat de Nordnet, ça nous donne 60 mégas, ce qui nous facilite drôlement la tâche et ce qui nous donne une très bonne fluidité de réseau. A changé par rapport au débit internet, c'est surtout donc nos connexions au niveau robotisation. On est en robot traite pour la traite des vaches. Nous sommes en alimentation automatique pour les cochons et c'est vrai que la connexion à distance était très très importante pour nous. Et avant, elle était très compliquée parce qu'on n'avait pas assez de débit et aujourd'hui, elle nous a facilité drôlement la chose. On a 7 appareils connectés en permanence sur le réseau Internet et après, forcément, nos téléphones portables quand on est sur l'exploitation et ainsi que quelques tablettes quand on est en visioconférence.
Ce dont on a vraiment besoin quand on a ces nouvelles technologies, c'est la connectique, quoi. On a aussi des territoires en zone blanche et on s'aperçoit que ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que la Chambre d'agriculture, avec Nordnet, a travaillé pour essayer de trouver des solutions pour améliorer justement ces réseaux de connexion. Et c'est ce qu'on a fait ici, notamment sur notre exploitation également.
Merci pour cette promenade bretonne.
Oui, sous les musiques bretonnes également. Non, mais... Cette exploitation, alors on n'a pas vu l'ensemble des usages liés à l'Internet dans ces bâtiments. Vous avez vu peut-être, vous avez reconnu des méthaniseurs, mais il y a également une salle d'élevage de porcs. Cette salle est nettoyée par un robot qui automatiquement va nettoyer la salle, à peu près à 80%. Ben ce robot, cette exploitation agricole l'a acheté, l'a mis en place auprès d'une société néo-zélandaise, parce qu'ils sont les meilleurs pour ce type de robot. Et bien, cette société, depuis la Nouvelle-Zélande, se connecte à l'Internet, passe par la connexion évidemment de l'exploitation agricole, donc la connexion NeoSat, et accède clairement à l'équipement pour faire la maintenance à distance, faire des tests de réglage, etc. Donc oui, j'allais dire, les agriculteurs font partie de ceux qui ont besoin de très haut débit aujourd'hui, et on est là pour les accompagner avec ces solutions, et notamment cette solution NeoSat, on est là pour travailler la réduction de la fracture numérique. Et puis, c'est le thème, développer l'attractivité des territoires. Alors, concrètement, comment ça marche? Il suffit d'installer la parabole NeoSat sur l'habitation ou sur les locaux professionnels. Et il suffit de choisir une formule d'abonnement. Audrey le disait, il faut que ce soit abordable. Oui, c'est moins de 40 euros par mois aujourd'hui. Et il faut installer cette parabole NeoSat. Elle est installable par l'abonné lui-même s'il le souhaite. Elle peut être installée par un service pause qui fait que Nordnet dépêche un technicien sous quelques jours chez vous. Le très haut débit, c'est véritablement une réalité. C'est finalement aussi accessible parce que depuis quelques semaines, l'État a décidé de majorer la subvention qu'il apportait aux solutions dites alternatives ou sans fil. Et désormais, le kit de connexion satellite NeoSat est labellisé et finalement est rendu à l'abonné éligible à l'aide d'État pour la somme forfaitaire de 0 euro. C'est-à-dire que ce kit est 100% pris en charge pour qui ne dispose pas d'un bon débit et se situe dans une des communes sélectionnées par l'État. En région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une spécificité, c'est que cette aide d'État, elle est complétée, abondée par une aide supplémentaire de la région et des départements qui vise à rendre totalement, gratuit les frais de raccordement si le client souhaitait faire appel à un technicien pour l'installation sur site. Donc globalement, la couverture de NeoSat, elle est aujourd'hui assurément et durablement nationale. La couverture de NeoSat, elle est permanente, elle est stade. On parlait tout à l'heure de constellations en orbite basse, pas forcément le cas. On est sur, effectivement, une solution qui repose sur un satellite géostationnaire. Puis c'est vrai qu'on fait souvent le cocorico autour de ce satellite Made in France ou Made in Europe. Nous sommes clients de Telsat et nous occupons la capacité de ce satellite. Et ce satellite, vous l'avez fait avec Thales, avec Aligned Space, et vous l'avez envoyé avec Ariane. Donc cocorico pour cet exercice de style qui permet aujourd'hui d'offrir de l'Internet illimité à nos clients avec des débits de l'ordre de 100 mégas, qui permet de fournir une ligne de téléphone ô combien utile dans la ruralité, une ligne de téléphone fixe en voie sur IP avec de la gestion de qualité de service, qui permet accessoirement aussi de recevoir la télévision. Donc ça, c'est le fruit d'une expertise européenne spatiale. C'est aussi gage d'une forme de souveraineté nationale. Et je pense que ça, c'est relativement important d'être toujours un peu connaisseur ou maître des réseaux qui sont créés au-dessus de nos têtes. Et le plus important, c'est que les les clients dotés aujourd'hui d'une parabole NeoSat, eh bien, pourront l'utiliser demain avec le satellite dont parlait Audrey, qui est le satellite Connex DHTS, qui arrivera l'an prochain. La parabole aujourd'hui commercialisée est 100% compatible avec le satellite à venir, qui remplacera le satellite qu'on utilise aujourd'hui, qui est nommé Connect. Donc oui, Antoine Darreau le disait, nous on assume que NeoSat est une solution finalement transitionnelle. C'est assumé en attendant la fibre. La preuve, c'est que lorsque l'abonné y souscrit, si demain il devient éligible à la fibre, il peut résilier sans frais. Au passage, je trouve que Nordnet est également fournisseur d'accès fibre sur les RIB dans 14 000 communes et 60 départements, donc il peut éventuellement rester chez nous s'il le souhaite. Mais clairement, nous sommes là pour assumer une offre de transition et là pour accompagner les entreprises, les foyers, et développer cette fameuse attractivité des territoires. Parce qu'on a plein de statistiques qu'on m'a données, il fallait que je les dise, mais oui, c'est vrai, il y a 40 millions de comptes Facebook en France, et dans la ruralité comme dans la ville. Il y a 22 millions de jeunes sur Instagram. OK, il faut les accompagner. J'ai entendu qu'il y avait 34% des rendez-vous chez le médecin qui avaient été pris par Internet, sur les 96 millions de rendez-vous qui ont été pris en 2020. Donc vous imaginez bien que tout ça, ça bouleverse les usages, et que dans la ruralité, il nous faut de la connectivité. Quand le télétravail représentait 4% de mémoire en 2019, et puis 27% en 2021, et a priori jusqu'à 47% des gens étaient en télétravail sur les 4 dernières semaines de confinement, évidemment, les gens ont réclamé du très haut débit. Évidemment, on était là pour les servir. Donc, cette connexion rapide et confortable, elle est réclamée, elle est exigée par les consommateurs. Et oui, on est là pour faire tout ce qu'on peut pour les accompagner. On est quelque part, et pour rebondir sur ce qu'Antoine Darreau disait tout à l'heure, cette fameuse question sur l'appétence pour les technologies de transition. Bon, j'allais dire, les planètes sont en train de s'aligner sur ce sujet de l'appétence. Pourquoi elles s'alignent ? D'abord, il y a du très haut débit par satellite jusqu'à 100 mégas. Ça existe, ça fait un an qu'on le commercialise. On a un recul suffisant pour dire que c'est fiable et confortable. Ça, c'est la première planète qui se dessine à nous. La deuxième, c'est que globalement, le kit de connexion satellite est désormais pris en charge par l'État. Il n'y a plus ce frein au raccordement lié à l'achat de ce matériel. La troisième, c'est que les offres restent abordables et dans les prix de marché. Et puis, il y a deux autres éléments qui font que les planètes sont en train d'aligner. C'est un, le besoin. Avec ce qu'on a vécu ces deux dernières années, oui, il y a une exigence du très haut débit et les gens n'en peuvent plus de leur ADSL de piètre qualité. Donc, ils se tournent vers des solutions, s'il y en a. Et dernier élément, et là, on appelle, j'allais dire, les collectivités locales à densifier leur communication, mais les foyers français ont de plus en plus connaissance de la date à laquelle la fibre est censée arriver chez eux. Et pour autant, certains, finalement, découvrent que ça ne sera pas avant 2024 ou 2025. Conscients de cette date, ils peuvent se tourner vers des alternatives. Très longtemps, et si l'on regarde dans le rétroviseur, on rencontrait beaucoup de gens qui étaient persuadés que la fibre arriverait chez eux le mois prochain, parce qu'ils avaient vu trois gars avec un gilet orange dans la commune d'à côté tirer la fibre. Or, on sait bien la fameuse histoire des autoroutes et des sorties d'autoroute, c'est pas parce que l'autoroute passe près du village qu'un jour ou l'autre, il y aura une sortie à côté du village. Enfin, en tous les cas, dans mon village, on attend depuis 30 ans cette sortie d'autoroute, et a priori, elle n'est pas prête d'arriver. Certains en font comprendre, d'autres pas. Voilà. Donc, voilà. Vous dire qu'on est là, on existe. Depuis maintenant quelques années, une entreprise mature, une entreprise, j'allais dire, cohérente. On est un peu, et on est sûr de nos engagements, et on veut continuer à vous surprendre. L'an prochain, on y travaillera. On reviendra avec d'autres annonces, j'en suis certain. Et on souhaite simplement provoquer durablement des émotions. Et NeoSat, l'Internet par satellite, que vous pourrez découvrir sur notre stand dans le Palais des Carmes. Comme notre offre aussi qui repose sur la 4G, si vous en voulez en savoir plus, venez nous voir. Mais ces solutions-là, c'est partout, c'est tout de suite, c'est pour tous, et c'est tant mieux. Donc, il ne reste plus qu'à le faire savoir auprès de vos administrés. Merci.
Merci, merci beaucoup, Christophe. Le mot de la fin, Antoine Darreau, après effectivement ce tunnel sur la fibre et sur les technologies alternatives dans le cadre d'un plan qui est en train de finir de se déployer dans sa phase 1, le mot de la fin.
Peut-être terminer par une interrogation, la place qui est celle que j'occupe actuellement. On voit bien que les réseaux de fibres vont déployer des services qui vont être de plus en plus critiques, de plus en plus essentiels,
ouais.
De santé, de maintien des personnes à domicile, mais également en termes d'éducation, de vie démocratique, etc. Et si ces services sont essentiels, alors les infrastructures et l'accès au débit devient lui-même essentiel. Et ça repose à la question du service universel du très haut débit, Parce que, et c'est là où on aura forcément besoin des technologies alternatives, parce qu'on ne pourra pas faire du service universel 100% avec de la fibre en France. Et ça repose cette question-là. Parce que les services critiques que l'on veut développer sur tout l'ensemble du territoire, pour l'ensemble des citoyens de la République, il va falloir un moment se poser la question de si on n'a pas besoin de formaliser ce droit à un service universel au très haut débit.
Merci. Comme disait Gustave Parking, je vous laisse réfléchir là-dessus. On applaudit nos intervenants. Merci beaucoup.